La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
François, vous recevez ce matin l'auteur de Sa Majesté le Maïs.
Bonjour Sylvie Brunel.
Bonjour François Geffrier.
Bienvenue sur Radio Classique. Vous êtes géographe, professeur à Sorbonne Université, ancienne présidente d'Action contre la faim. Est-ce que justement c'est l'aspect nourricier du maïs qui vous a donné envie d'écrire ce livre à la gloire, on peut le dire, de cette céréale?
Bien sûr. Quand vous travaillez, j'ai travaillé longtemps dans l'humanitaire. C'est la première céréale mondiale et elle a un atout considérable pour les pauvres. C'est qu'elle peut même se consommer verte, oui, avant maturité. Donc c'est une céréale formidable et aujourd'hui, alors qu'elle vient d'Amérique, elle a gagné le monde entier. Il y a plus de 150 pays qui la cultivent, y compris bien sûr l'Afrique et la Chine.
Alors vous êtes vraiment une passion pour le maïs, puisque vous avez fait aussi une géographie amoureuse du maïs il y a 12 ans, je crois en 2012. Et il y a aussi à l'origine de ce livre un partenariat entre votre filière universitaire, votre master, et l'Association Générale des Producteurs de Maïs.
Oui, l'Association Générale des Producteurs de Maïs qui depuis 15 ans accompagne les étudiants dans ces 150 pays, ce qui nous a permis, et ce qui leur a permis surtout à ces étudiants, de passer de longs mois dans tous les pays du maïs et d'en observer les différents aspects, à la fois sur la sécurité alimentaire, la géostratégie, avec par exemple le problème de l'Ukraine, de la guerre en Ukraine, et tous les aspects de transition écologique.
Et vous racontez un peu les expériences des uns ou des autres dans ce livre. Le maïs, il est à la fois associé à la junk food, on pense au pop-corn, on pense au maïs soufflé qu'il y a dans des sucreries, on pense aux galettes de maïs, avec tout ce qui peut être tacos ou autre. Et à la fois pour vous, c'est un aliment santé.
Bien sûr, c'est une céréale sans gluten et cette céréale accompagne tout un ensemble de régimes. On travaille aujourd'hui sur des dérivés du maïs qui sont extrêmement importants, par exemple dans la pharmacie. Il a été indispensable au moment du Covid pour les visières, le gel hydroalcoolique. Et c'est surtout, en fait, nous sommes, si vous voulez, la céréale du blé. Donc nous avons toujours eu un regard un peu...
En France, vous voulez dire.
Oui, enfin l'Europe.
Oui, le monde occidental,
oui. Oui, c'est ça, le vieux monde, c'est la céréale du blé. Et quand Parmentier, qui passe pour l'homme de la pomme de terre, découvre le maïs, il dit « non, c'est l'aliment le plus intéressant, le plus important que le nouveau monde ait apporté à l'ancien monde ». Et effectivement, ce maïs, c'est de loin aujourd'hui la première céréale mondiale, puisqu'on produit avec 1200 millions de tonnes presque plus de maïs que de blé et de riz réunis.
Oui, ça c'est très dense. Spontanément, on penserait en premier au riz, parce qu'il y a toute l'Asie, oui, ou éventuellement au blé, parce que c'est généralisé à l'occidental. En fait, non, c'est le maïs qui est quasiment la somme des deux. Oui.
Et de très loin, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une céréale qui est très adaptable, très prolifique et très généreuse. Donc, vous pouvez à peu près la semer partout, sauf évidemment dans le Grand Nord ou au Sahara, parce que c'est une céréale qui vient des plateaux du Mexique, du Pérou.
Vous racontez les déboires de Khrouchtchev pour en planter, lui qui adore ça.
Je vois que vous avez très bien lu ce livre. Oui, Khrouchtchev, il était fou de maïs, il avait voulu en planter, mais évidemment, à l'époque, la Russie n'était pas, enfin l'URSS n'était pas en mesure de cultiver du maïs. Ce qui est marquant d'ailleurs, c'est qu'aujourd'hui, Poutine, qui est déjà le maître du blé, est en train de devenir le maître du maïs. C'est tout l'enjeu de ce livre. C'est pas seulement une déclaration d'amour, c'est aussi une déclaration stratégique. C'est-à-dire, attention, l'Europe est la première importatrice mondiale de maïs. Elle se bat sur les marchés mondiaux avec la Chine pour acheter ce maïs indispensable à tout, y compris la transition écologique. Et alors que la France est la première exportatrice mondiale de semences de maïs, vous voyez, c'est stratégique.
C'est une autre découverte qu'on fait dans ce livre.
Oui, alors c'est essentiel. Ça fait 50 ans que la France est la première exportatrice mondiale de semences de maïs. C'est un savoir-faire inouï. Sauf que ce qu'on appelle les agriculteurs multiplicateurs, qui sont un peu les seigneurs de la profession, eh bien pour eux, ça devient de plus en plus difficile parce que des contraintes de plus en plus élevées sont mises à la production de semences. On l'a vu avec la révolte des agriculteurs. Ouais. Et pendant ce temps, Poutine, lui, il est en train de monter en puissance.
Et vous citez aussi le président chinois, qui est par exemple lui aussi très soucieux du maïs, qui le compare quasiment au panda. On sait qu'il y a toute une diplomatie du panda. C'est quasiment pareil que le maïs. Il faut que les producteurs chinois y aillent très fort et le protègent.
Oui, il dit le maïs, les semences de maïs, c'est le panda de nos terres cultivées, notamment les sols noirs. Et il fait notamment de l'industrie semencière. Alors, il y a eu des vols de maïs, de semences de maïs aux États-Unis par des diplomates, des émissaires chinois qui avaient été envoyés évidemment au premier pays du maïs. Et aujourd'hui, les enjeux autour du maïs, par exemple pour l'Afrique qui doit relever le défi alimentaire, eh bien le maïs, par tous ses atouts, y compris ses atouts climatiques, est une céréale absolument formidable.
Oui, l'Afrique qui produit du maïs, ça aussi on ne l'a pas forcément extrêmement en tête. On pense au maïs comme étant, et c'est très un chapitre important de votre livre, Sylvie Brunel, ce livre Sa Majesté le Maïs, étant très consommateur d'eau. et nécessitant de l'irrigation. Quelle est la réalité de tout ça ?
Alors, la grande majorité des cultures de maïs mondiales sont ce qu'on appelle pluviales, c'est-à-dire qu'elles se contentent de l'eau qui tombe du ciel. Maintenant, quand vous voulez des productions sous signe de qualité, par exemple la semence, ou le pop-corn, ou le maïs doux que votre fille semble aimer et qui est le cinquième légume cultivé en France, eh bien, vous vous rendez compte que si vous n'avez pas d'eau l'été alors que les étés sont de plus en plus chauds et secs, vous ne garantissez pas la production. Sur l'irrigation, je voudrais... Oui, bien sûr, développer ce point, parce qu'il y a une espèce de réflexe pavlovien dès qu'on parle maïs, tout le monde dit « Ah, ça consomme trop d'eau ». En fait, non, ça pousse l'été, parce que c'est une céréale tropicale. Donc, on voit pousser le maïs quand on a déjà récolté le blé. Donc, ces champs de maïs, qui sont d'ailleurs formidables, parce qu'ils entretiennent l'humidité, parce qu'ils abritent une très grande biodiversité, eh bien, si l'on veut garantir la récolte, il y a un quart du maïs cultivé en France qui est irrigué. Mais l'eau que reçoit le maïs... Alors le maïs, c'est à peu près un petit peu moins de la moitié des surfaces consacrées à l'irrigation en France, 41%, et d'ailleurs ça baisse. En fait, ce qui est marquant avec le maïs, c'est que dès que vous lui apportez de l'eau, il va l'optimiser, il va vous donner des rendements de l'ordre de 20 tonnes hectare. Vous voyez, le blé, c'est 7 tonnes. Au Sahel par exemple en Afrique des savanes, c'est 1,5 tonne.
Donc, utilisation raisonnable par la plante.
C'est une plante qui non seulement optimise l'eau qu'elle reçoit, mais la rend à l'atmosphère. Un agronome, Francis Bucaille, dit que le maïs fait tomber la pluie, comme l'Amazonie. Oui. Et finalement, le maïs, il est indissociable des plans climat. Si vous voulez capter du CO2, une plante qui pousse très vite, beaucoup, et qui produit beaucoup de biomasse, elle va non seulement capter en poussant les gaz à effet de serre dans l'atmosphère, mais elle va aussi en stocker dans les sols.
Le maïs produit plus d'oxygène que la forêt, si je...
Que la forêt non cultivée, parce qu'il faut quand même défendre aussi ceux qui nous font des forêts cultivées, justement pour pouvoir accompagner ces plans climat.
Oui, à propos, vous parliez du pop-corn, j'ai appris qu'il y avait du maïs à pop-corn qui poussait en France en Occitanie, mais dédié à ça, quoi.
Ah, mais attendez, on est les premiers, là aussi. On ne le sait pas, mais il y a une société qui s'appelle Nataïs, qui est basée dans le Gers. Donc, la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie, ce sont des grandes régions productrices de pop-corn. Et d'ailleurs, ce qui m'amuse, c'est que les gens qui critiquent le maïs boulottent du pop-corn, et notamment au cinéma.
Vous dites que le maïs est mal aimé, vous parlez même de racisme botanique.
Oui, ce racisme végétal, ce racisme botanique, c'est que nous adorons aimer le blé, nous avons une belle image du riz, et d'ailleurs nous sommes aussi producteurs de riz en Camargue. Et le maïs, on a l'impression qu'il est toujours illégitime, qu'il ne devrait pas être là. On l'assimile par exemple aux OGM, alors qu'en France on n'a pas le droit d'en cultiver.
Et vous rappelez aussi que le maïs ne se limite pas au maïs jaune que nous connaissons. Spontanément on pense à la boîte de maïs, la boîte de conserve, là. On ne citera pas de marque, mais on l'a bien en tête.
Un grand géant,
exactement, d'une certaine couleur. Sylvie Brunel, vous venez juste de publier un autre livre, Le sourire de l'alligator, aux éditions du Rocher toujours. Cette fois, c'est un roman, ça n'a rien à voir.
Oui, alors c'est un roman, mais vous savez, moi je suis très préoccupée par les enjeux de transition écologique, par le fait de sauver nos territoires. Il ne faut absolument pas rendre la Camargue à la mer. Or, vous savez, c'est la petite musique qui nous dit qu'aujourd'hui la mer monte et certains territoires vont être perdus. En Camargue, il y a... deux éléments fondamentaux pour sauver la Camargue, le riz qui permet de dessaler les terres et le sel qui peut être un poison mais qui est aussi une bénédiction pour notre indépendance. J'imagine qu'un alligator descend le Rhône, s'installe en Camargue et change la donne parce que tout le monde se dit que fait cet animal ici, quel destin lui assurer. Et le sourire de l'alligator, eh bien, c'est aussi un message d'espoir sur notre avenir et sur notre France.
Mais est-ce qu'il mange du maïs, l'alligator ?
On peut dire que l'alligator, à l'occasion, bien qu'il préfère les ragondins, mange des grues cendrées qu'il prolifère dans les champs de maïs. Donc finalement, la boucle est bouclée.
Et la réponse à tout. Le sourire de l'alligator donc vient de paraître, tout comme Sa Majesté le Maïs, de livres aux éditions du Rocher que vous avez écrit. Merci beaucoup Sylvie Brunel, invitée des Voix de l'économie ce matin sur Radio Classique. Très bonne journée.
Merci François Geffrier.
Et on retrouve François Geffrier demain à 6h pour 1h15 d'actualité économique. Dans 3 minutes, David Doucan et les coulisses de la politique. François-Xavier Bellamy ne décolle pas vraiment dans les sondages. 7% d'intention de vote. Un casse-tête pour...